gueule pas.
À tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour parler avec nous d'actualité geek et ludique. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Pierre-Yves.
Salut tout le monde.
Et de Dominique.
Salut à tous les autres.
Ah, Dominique, un petit souci de micro qu'on va régler. Tu es
bon,
sûr
une fois que je parlais dedans.
Alors, je vais allumer tous les micros, on verra bien. T'es sûr d'être sur le 5, hein, c'est bien ça. Hein.
Pas.
Le 7.
Ah non, je suis sur le 3.
Ah bah voilà, tu vois. C'est la magie de la technique.
Voilà, quelqu'un a inversé les micros.
Oui, je suis direct.
Aujourd'hui, nous allons parler un peu de jeux de société, puisque demain, c'est bien ça, hein, demain on aura... Enfin, l'annonce des vainqueurs. Alors, on a invité Pierre-Yves dans l'émission juste pour
qu'il fasse sonner son téléphone.
Pour qu'il nous indique et qu'il prononce cette catégorie. C'est le Spiel de
Jaros. Le jeu de l'année en français. On rappelle qu'il y a trois catégories. Donc, celui pour les enfants avait déjà été donc annoncé il y a quelques jours.
On avait donné le résultat dans l'émission un peu avant l'été, oui.
C'est Dragomino qui a aussi gagné l'As d'or à Cannes, d'ailleurs. Et demain, effectivement, on aura les gagnants des deux autres catégories.
Le 19 juillet, le 19. Rappeler, pour les gens qui écoutent pas en direct.
Oui, le jeudi, on est bien. Donc oui, effectivement, le 19 juillet. Donc on aura les gagnants de la catégorie Jeux de l'année, qui est la catégorie grand public, on va dire.
Famille, oui.
Famille, voilà. Et la catégorie connaisseurs. Donc là, où ce sont des jeux un peu plus compliqués. Alors, bon, ça, il y a
des jeux experts.
Plus longs.
Des jeux experts, ouais, voilà. Clair.
Alors, dans les jeux experts, pour le rappeler, donc le Kinnerspiel, nous avons Paléo.
Oui, sur la préhistoire.
Voilà, un jeu de un peu de gestion.
Jeu coopératif, plus précisément, effectivement.
Les ruines de Narak.
Les ruines perdues de Narak, en français.
Oui.
Parce que la version anglaise, c'est quand on traduit, ça ferait les ruines perdues de Arnak. Du coup, ils se sont dit, bon, en faisant la localisation en France, ils ont changé le titre, ce qui est intelligent.
Qui est un jeu plus de confrontation et de poste ouvrier.
Et Fantasy Realms.
Plus un jeu de cartes, oui.
Ouais, un combo.
Alors, quels sont vos pronostics sur le grand gagnant? Alors, attention, en tout cas au niveau des experts.
Ah, ruine perdue de Narak.
Ouais, moi, je serais plus tenté pour le Fantasy Realms.
Ouais, pareil.
Ouais. C'est un jeu de combo, bien prise de tête, comme tu peux jouer autant en famille, enfin, aussi simplement que prise de tête. Les règles sont assez simples, tout est sur les cartes.
Ouais. Ça... Tu commençais avec le Spiel, ça amène beaucoup, beaucoup de ventes, donc beaucoup de boîtes vendues. Ouais. Ça va être plus facile à produire, donc je pense qu'ils prennent ça en compte.
Donc c'est le troisième jeu qui va gagner.
WizKid a dû passer quelques billets sous la table pour avoir le prix. Je suis sûr que les usines sont déjà en train de produire les boîtes.
Alors, dans la catégorie grand public, on avait Zombie Teens, qui aurait pu limite se retrouver dans la catégorie jeu d'enfant, mais vraiment à la limite, ouais, oui. Puisque là, on est plus sûr à partir de 8-12 ans.
Ouais, là, tu peux jouer avec tout le monde, c'est ça qui est bien, des petits de 7-8 ans aux grands-parents.
Le thème zombie pour des enfants qui ont 4-5-6 ans.
Non, en plus, c'est des gentils zombies, enfin, c'est rigolo. T'as des super pouvoirs.
Alors, si on regarde un peu les dessins animés que propose maintenant la majorité des plateformes, puisque je pense que maintenant on est loin de regarder la télé comme on la regardait avant, je pense que ces thèmes de tout ce qui est zombies sont peut-être déjà abordés, et ce qui fait que peut-être que dans les jeux de société, c'est plus évident d'intégrer un thème de zombies.
Oui, t'as même des séries comme Le Petit Vampire ou des choses comme ça, vraiment, c'est ça.
Le petit cannibale.
Non, mais c'est vrai. Le petit vampire, tu le trouves en librairie et c'est toujours conseillé pour enfants. Et dedans, il n'y a pas que des vampires, il y a tout type de monstres.
On pourrait imaginer que c'est un sujet, enfin tabou, parce qu'effectivement, un vampire, c'est un mort. Donc c'est un mort vivant et les zombies, c'est pareil, c'est le mort vivant. Donc est-ce que tu abordes le sujet de la mort indirectement à des enfants très jeunes? C'est pas évident.
Attention, on ne parle pas des 3-4 ans ici, hein, je pense, pour plus du 6 ans ou plus.
Ils n'ont pas encore la notion des morts.
Je pensais surtout par rapport, en tout cas, au thème graphique qui était un peu toon.
Mmh. Oui, tout à fait.
Ensuite, Micro Crime City, alors, qui a déjà remporté l'As d'or.
Et qui est très très bien. Et ça serait mon coup de cœur.
Je pense, ouais.
Mmh. Et Robin Hood. qui est un jeu un peu plus conséquent ici.
Qu'on connaît pas très bien, en fait.
Ouais, qui est un jeu évolutif, d'après ce qu'on a compris, mais pour l'instant que connu au niveau de l'Allemagne, pas forcément d'infos en France.
On a vu quelques news, le plateau qui se construit au fur et à mesure, mais on n'en sait finalement pas plus et on sera à découvert.
Zombie Teen, c'est la suite, donc c'est Zombie Teen Evolution, il y avait déjà eu Zombie Teen Evolution, donc le principe, même s'il y a des différences, le principe est déjà un peu connu, c'est pas super révolutionnaire. Crime City, voilà, c'est peut-être le innovant, enfin... Si on veut, c'est peut-être le plus différent, celui qui a marqué le plus les gens, par style, par son... Ouais.
Et qui se joue de 7 à... même plus que 77.
Tu peux jouer à plusieurs, en plus, tu peux jouer à... Oui, y a pas...
Qui se reconvertit en grand plateau de dessin,
en plus.
De coloriage, c'est ça. Alors, nous avons un petit back-to-back aujourd'hui qui va nous permettre de passer un peu de musique. Et le thème qui a été sélectionné, c'est le Tour de France.
C'est l'actualité sportive. Alors comme la France n'a pas gagné à l'Euro, on s'est dit, bon, bah, on va changer de catégorie, on va passer du vélo plutôt.
Ah, parce que le Tour de France, donc, on le rappelle, ça s'est terminé aujourd'hui, donc les 18 juillet. Je ne sais même pas qui a gagné.
Ils ne sont peut-être même pas encore arrivés,
c'est possible. Mais c'est pas que ça nous intéresse. C'est surtout la musique qui va nous intéresser.
Alors, Reynald, je te propose d'ouvrir le bal avec l'une de tes sélections pour le thème du vélo.
Alors, là, depuis quelques temps, je me suis remis à écouter un peu de punk ou de rock français. Et quand on m'a parlé de faire un back-to-back sur le vélo, je me suis dit, il n'y a pas à tortiller, il faut reprendre sur les Vampas.
Avec un titre qui s'appelle Jalabert.
Jalabert, effectivement.
The Vampas avec Jalabert.
Oui, ils ont donné que le nom, donc peut-être que l'un des enfants de Laurent Jalabert pourra gagner le Tour de France.
C'est pas faux.
Alors, comme tu l'as dit, c'était Jalabert des Vampas, de l'album Shikutumi de 98. Ça date. Hein.
Ça, on est plus tout jeune. Hein.
Ouais, mais ça sonne toujours aussi bien.
On continue dans le jeu de société. On va parler d'un grand... On peut appeler ça un éditeur ? Même si maintenant, un revendeur.
Un macro-éditeur.
Un giga-éditeur.
Un giga, ouais, c'est pas mal.
Alors, on allait citer un peu toutes les boîtes qui ont été rachetées par Asmodée, mais ça sera peut-être plus simple de faire l'inverse, de citer celles qui sont encore indépendantes.
Voilà.
Alors, c'est vrai qu'Asmodée, maintenant, est élu un peu comme le gros éditeur qui se permet de racheter un peu tout, même des plateformes de jeux maintenant en ligne.
Je ne sais même pas s'il y a un équivalent dans le jeu vidéo, par exemple. Il y a encore pas mal de boîtes qui se concurrencent. Donc, même si Microsoft a racheté beaucoup d'éditeurs, de développeurs, mais ils en sont loin. Quoi. Ils ont des concurrents encore.
C'est un fonctionnement intégré, en fait. Hein. C'est vraiment depuis le développement du jeu jusqu'à la distribution...
Ils ont des studios aussi, voilà.
BGA aussi, oui.
Tu devrais plus parler pour le jeu vidéo de plateformes qui te donnent accès au jeu comme Steam.
Éventuellement. Ouais. c'est un peu plus complexe.
Ah ouais, mais Steam ne développe pas de jeux, alors que là, Asmodée va chercher aussi des auteurs de jeux.
Ah oui, il fait tout. Il distribue, tout. Ouais. Il programme, il rachète. Fin.
Et Asmodée a commencé dans le jeu de rôle, en rachetant aussi des cartes. Alors à l'époque,
c'était plus Asmodée. Oui, c'était tout petit au début. C'est une boîte française, c'est tout petit, qui a été rachetée il y a quelques années par un fonds de pension américain, quelque chose comme ça. Mais...
Après, pourquoi on parle d'Asmodée aussi? C'est parce que... Le salon du jeu à Essen est bien maintenu en physique cette année, pour l'instant. Donc aujourd'hui, le 18 juillet, c'est l'info qu'on a.
Essen étant l'un des plus grands salons de jeux de société.
C'est le plus grand monde. C'est la référence. Donc les dates pour l'instant, c'est 14 au 17 octobre à Essen, en Allemagne.
Mais par contre, on vient d'apprendre que Asmodée n'enverrait pas de représentants sur le salon, sachant qu'Asmodée, comme on le disait, ça va peut-être être 15 ou 20 éditeurs. Et à eux seuls,
avant, quand, il y a quelques années, quand tu allais à Essen, tu arrivais dans le hall principal, il y a plein de halls, et il y avait beaucoup d'éditeurs allemands, de stands allemands, etc. Puis petit à petit, les Français sont arrivés, ils ont pris un stand, deux stands, mais ces dernières années, tu arrivais, c'est même pas Essen, c'est le salon Asmodée pratiquement quand tu arrivais.
C'est ça, c'est entre les jeux qui, eux, produisent eux-mêmes et ceux qu'ils distribuent, tu peux facilement te faire un stand à Essen, tout un hall entier de stands.
Alors, ils vont quand même envoyer quelques employés pour discuter un peu des nouveautés et apparemment manger des crêpes aussi.
Oui, parce que le salon Essen, c'est un salon pour le public, mais aussi pour le professionnel. C'est un petit peu comme le Festival de Cannes qui se termine aussi aujourd'hui. C'est, il y a pour le public, il y a tout ce qu'on voit, la télé, les concours, mais derrière, c'est un gros marché où les gens du monde, les studios du monde entier viennent pour échanger, pour acheter, voir ce qu'ils peuvent, montrer leur catalogue de films. Il y a le mercato, etc. Et Essen, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les stands, dans les boutiques et compagnie. Et tu peux tester, tu peux jouer en tant que visiteur, mais les professionnels, ça se passe dans les coulisses, on va dire, où il y a des contrats qui se signent.
Alors moi, j'ai plusieurs amis qui sont allés pour présenter des jeux. Mmh. Et certains donc, ont signé des contrats. Et
c'est un passage incontournable. C'est vraiment un passage incontournable à l'international, tout comme le Festival de jeux de Cannes pour la France, à une moindre échelle.
S'il n'y a pas Asmodée, on verra si le salon sera maintenu.
Oui, à mon avis,
la variante Covid-Delta.
Ils seront là. Les vendeurs, les commerciaux, les avocats seront sur place pour tester, faire des rencontres habituelles, mais il n'y aura pas le côté public, il n'y aura pas de stand, de boutique, je ne sais pas quoi. Parce que ça coûte énormément, ça coûte une fortune à mettre en place. Autant ils peuvent se le permettre sur 3-4 jours, faire sur 4-5 jours, ça amortit. Et puis tu rencontres du monde, donc ça va. Mais si tu sais que tu auras moins de visites, je ne sais pas combien, 10 fois moins de visiteurs peut-être, ça fait énormément de monde à bouger, pas grand-chose. C'est un petit peu comme un spectacle de théâtre. Quand il y a moins de monde dans la salle que sur la scène, tu n'es pas obligé de jouer.
Alors c'est ça, on parle d'avoir environ 60% de capacité par rapport à d'habitude. Mmh. Avec bien sûr...
100 000 personnes environ.
Oui, voilà, ça veut dire que tous les étrangers, même les Américains, les Japonais, ne vont pas venir. Enfin, c'est chaud.
Quoique les Japonais, ils viennent justement là, c'est le salon qui les fait montrer à l'Europe et qui leur font signer énormément de contrats. Parce qu'il faut voir aussi que maintenant, on parle justement des contrats de type français, comme avec Asmodée et d'autres boîtes françaises. Mais tu as aussi l'Italie qui fait un bon forcing sur le jeu de plateau, les pays de l'Est aussi qui sont en train de se regrouper et il y a des bonnes boîtes de distribution des pays de l'Est qui commencent à inonder le marché ou qui se font traduire en français pour inonder le marché francophone. Donc jeux japonais viennent justement à Essen pour rencontrer toutes ces personnes du circuit européen.
Les gens qui viennent de très très loin comme les Japonais vont venir en Europe parce qu'ils ne vont pas faire que Essen. Ils vont aller après la UK Game Expo, il y a d'autres salons en Allemagne, même en France il y a d'autres salons en ce moment, des salons. Ils vont en profiter pour faire le tour d'Europe. Ouais, donc ils viennent pas
puis c'est
que
pas parce qu'il y a le salon. Après il se passe tellement de choses dans les chambres d'hôtel entre avocats que...
Quoi
Alors en sachant tous les salons dont on parle, pour pouvoir y aller, y participer, il faut avoir le pass sanitaire. Mmh. Donc si jamais vous n'êtes pas vacciné, c'est une bonne occasion de se faire vacciner pour pouvoir aller dans ces salons.
Enfin, là, en plus, en octobre, tout peut changer d'ici là. Il y aura peut-être 2-3 nouveaux variants, on ne sait pas. Donc, c'est sous réserve, bien sûr, tout ce qu'on annonce.
Donc là, toutes les conférences, vous serez à 1,5 mètre par rapport à l'autre chaise. Il va falloir, bien sûr, porter le masque.
Ça va être compliqué.
Comme partout.
Mais je pense que Asmodée n'a pas besoin, pour l'instant, est capable de faire elle-même ses couvertures de jeux.
Ils peuvent faire leur propre salon s'ils veulent.
C'est ça la question. Est-ce qu'on va pas avoir un salon propre à Asmodée. Est-ce que c'est pas un de leurs nouveaux combats de préparer quelque chose de grande ampleur?
Ouais, mais c'est pareil, ils attendent aussi les nouvelles des variants, de l'évolution de la pandémie, c'est difficile. Ils peuvent le faire localement, comme en France, etc. Enfin, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est pas évident.
Vas-y, Pierre-Yves.
Bon, participer à un salon comme Essen, ça permet de rencontrer du monde,
Mais là...
de se faire un réseau. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi, de beaucoup d'acheteurs, donc faire un salon à part.
Bah le monde, c'est eux maintenant. Hein, c'est eux.
Après, faire un salon physique spécial Asmodée, je ne vois pas trop l'utilité. Comme dit Pierre-Yves, tout se passe généralement pour l'instant par Essen, donc l'évolution du jeu, il faudra attendre encore quelques années pour que ça change. Mais par contre, Asmodée distribue et produit tellement de choses et ont des contacts avec des youtubeurs, des streamers, des twitchers, enfin il y a plein de choses que leurs jeux sont largement assez diffusés et peuvent continuer comme ça. Ils n'auront pas besoin de créer un salon qui coûteront des 1000 et des 100 en personnel, en matériel, alors qu'ils envoient une boîte de jeux à un youtubeur, tu le dis, tu me fais un test dessus, ça coûte quoi? Ça coûte l'envoi postal. Donc quel intérêt de faire un salon?
Les gens peuvent tester.
Si après, les gens d'Asmodée nous écoutent d'ailleurs, pas de problème, ils peuvent envoyer. Alors, Radio Campus.
Nous on teste et on dit en bien ou en mal. Hein.
Après, alors cette année, bon, malheureusement, ils ne seront pas là non plus, mais il y a Board Game Geek. Donc, il y a un grand site internet avec...
c'est la référence mondiale, voilà.
On trouve tous les jeux, plein d'infos sur les jeux qui sortent.
C'est un site américain qui a une paire d'années maintenant, qui a été lancé. C'est la référence, c'est l'encyclopédie en ligne, c'est le forum absolu en anglais, international.
Pour ceux qui connaissent, c'est le Trick Track, mais anglophone, plus.
Puissance, oui.
Et lors du salon, à Essen, donc on peut voter justement sur Board Game Geek, on peut voter. Et c'est pareil, les jeux qui arrivent en tête, ça leur fait aussi de la pub.
C'est ça. Au début, c'est vraiment qu'un site d'information. Et puis, ils ont commencé, ils ont une chaîne YouTube, mini-télé pratiquement. Ils ont commencé à se déplacer dans le monde entier pour faire des interviews aussi.
On peut citer deux autres salons, autres qu'Essen. Si on part aux États-Unis, c'est la Gen Con, qui se déroule du 16 au 19 septembre. Alors, eux, pareil, hein, une jauge limitée, donc 60% par rapport à d'habitude. Et les gens non vaccinés devront porter le masque. Voilà, c'est un peu différent.
J'ai hâte de voir comment les gens font jouer. Est-ce qu'ils vont avoir des gants aussi? Parce que le masque est gentil, mais tu joues pas avec ta bouche.
Il faut se laver les mains.
Ça dépend du jeu.
Tu te laves les mains après chaque partie.
Oui, mais c'est pareil pendant le. Enfin, je sais pas, moi, il m'arrive de temps en temps, quand je joue à ces jeux, porter le pion à ma bouche ou une carte. Enfin, déjà,
on ne peut pas savoir, Dominique.
Le truc, c'est que les pions. Que tu vas échanger de joueurs, ok, tu vas les toucher avec tes mains, donc comme on s'est tous lavé les mains avant, il n'y a pas de problème, mais il y a des jeux de cartes où on met la carte sur le front, etc., tu fais comment, tu mets un masque sur le front.
Le pire, ce sont les jeux de dessin, quand tu cherches à noter quelque chose et que tu commences à mordiller le crayon par habitude,
tu ne fais plus attention.
Je
ne dis pas ça, mais ça suffit pas de.
Je suis pas sûr que François ait envie que vous fassiez ça avec ses pions du jeu d'une qui vient d'acheter.
Non, mais ça arrive. Ouais. C'est tout bête. Ouais. Tout à l'heure, on jouait aux cartes, effectivement. Moi, j'avais mes cartes en main, il faisait chaud, je m'en servais d'éventail. Mais j'aurais très bien pu me toucher la peau avec, ou je sais pas quoi, ou même mon coude. Tu touches le tableau avec ton coude, et mon coude, je me suis pas lavé avant la table.
On va passer une chanson pour couper cette discussion.
Le pire sont les jeux de dés, par exemple, où on va lancer des dés à chaque tour, donc forcément, au bout d'un moment, tu peux pas te laver les mains à chaque
manipulation. Oui, parce que les mains, tu les portes à ton front.
Pareil pour les jeux de draft.
Tu vas boire, tu as un bêta qui va fumer une cigarette, il faut qu'il se lave les mains. À moins que tu prennes une douche complète avant ou après la partie, mais.
Pareil pour les jeux de cartes, plus communément la belote, ça devient extrêmement difficile de faire ça dans des...
C'est pour ça que si tu n'es pas vacciné, tu as le masque, tu te laves les mains entre chaque partie, ça permet déjà de bien limiter.
Alors qu'en France, tu n'aurais juste pas le droit de jouer aux jeux de société, mais basta, tu vois. Et le dernier festival ou l'exposition, c'est le UK Game Expo qui, lui, aura lieu également le 30 juillet au 1er août et c'est à Birmingham.
Donc, chez nos amis anglais. Et là, c'est encore plus léger, je dirais, en termes de restrictions.
Déjà, faut aller en Angleterre.
Ouais, mais ils ont levé toutes les restrictions là récemment. Et donc,
pas mal.
Regardez s'il y a des trains.
Alors, Dominique, est-ce que tu veux passer un peu de musique avec ton choix? Nous le rappelons, un back-to-back sous le thème du vélo. Bien sûr, parce que le Tour de France se termine aujourd'hui. Quel est ton choix?
Moi, ça m'a fait penser, alors c'est pas une course de vélo, mais à un film de Jacques Tati, un film de 1959 qui s'appelle Jour de fête, et dans lequel Jacques Tati lui-même réalise et joue le rôle du facteur. Et il y a de longues séquences à vélo. Il a même fait un autre court-métrage avant qui s'appelait L'école des facteurs, où on le voyait aussi apprendre.
Le film a été colorisé il y a quelques années, il me
semble. Ouais, c'est honteux.
Sous l'album Sonorama, c'est ça ?
Absolument.
Mis en boucle la chanson.
Donc c'était La balade du facteur, une musique de Jean Yatov, pour le film Jour de fête de Jacques Tati. Jean Yatov qui a fait pas mal de musique jusqu'en 1976. Et son dernier film, c'était, il a fait la musique de Dora.
Ah,
Dora, voilà. La frénésie du plaisir.
Ah, c'est, on parle pas de l'exploratrice. Ah,
bah, d'une certaine façon aussi. Hein.
Dommage, je connaissais que l'exploratrice.
Elles n'explorent pas la même chose, c'est tout. Alors, on peut parler rapidement d'un festival qui va avoir lieu le samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. C'est le festival des livres d'en haut qui se déroulera à Lille, dans l'espace Saint-Saud, c'est bien ça. Vous retrouverez donc plusieurs éditeurs qui viendront présenter des livres. On en reparlera sûrement plus en détail dans une prochaine émission. Dominique, un événement qui te plaît tout particulièrement et qui se déroule un peu plus loin, c'est à Paris. Ça se passera le vendredi... à partir du vendredi 17 septembre, on a enfin reçu la programmation.
Ouais, on l'avait déjà annoncé, le Paris Shark Festival, le premier film, le premier festival au monde, c'est la deuxième émission, consacrée aux films de requins. Aux requins et aux films de requins. Il n'y a pas que les films de... Il n'y a pas que les Dents de la Mer, il y a aussi tous les nanars autour du requin. Et il y a aussi des documentaires, pas mal, avec des conférences sur place, des gens qui viennent présenter. Il y aura un film en exclusivité, apparemment un des nouveaux nanars. Un des nouveaux nanars de la boîte de production qui s'appelle Wide Eyed Releasing, qui sont spécialisés dans, pas que les nanars de requins, mais tous les nanars.
Oh.
Ils ont fait par exemple mais ils font les films les plus cheap au monde. Les budgets, je te raconte même pas, c'est ridicule. Il y a le dernier en date, je crois que c'est Ebola Rex. En gros, c'est un savant fou qui a ressuscité un Tyrannosaurus Rex et qui lui a injecté le virus Ebola. C'est pour vous dire que le scénario, je pense qu'ils ont un générateur aléatoire de scénario.
On trouve du monde pour regarder des films comme ça ou...
Tu rigoles quoi, mais ça, bah, ça
Dominique
marche.
L'a vu.
Leurs films sont disponibles sur... Ah, oui, on peut acheter les films sur leur site, ils sont des fois diffusés en salle. Ils vendent même les VHS sur les catalogues de VHS sur leur site, c'est pour te dire. Et donc, ils seront présents sur place normalement. Et alors, un mini quiz, ils ont quelques films du requin, je vais vous dire des titres de films, vous allez dire si ça existe vraiment. Vous connaissez le film Les Aventures de l'Arche Perdue, Raiders of the Lost Ark. Et est-ce qu'ils auraient fait Raiders of the Lost Shark?
Oui, bah oui.
Oui, c'est facile.
Évidemment.
Oui, imaginez, tu es sur une plage, tu te promènes et tu trouves une table, une planche de Ouija. Tu l'utilises, le sors avec tes amis auprès du coin du feu, tu joues à la planche Ouija et ça invoque un requin fantôme. Ouija Shark.
Non.
Il y a déjà eu, l'année dernière, à ce festival, il y a déjà eu un film nanar avec un fantôme de requin. Mais c'est pas celui-ci. Donc, effectivement, il peut exister. Ouais.
Il y a Shark Exorcist.
C'était peut-être Shark Exorcist, c'est celui-là.
Ouais.
Sinon, dans le monde, Jurassic Shark.
Ah oui, forcément.
Ça, oui. Ah,
et bien sûr, celui que j'ai envie le plus de voir.
Shark Busters.
Non. Ah, peut-être. Tu vas les voir, tu leur donnes. Je suis sûr qu'ils y travaillent. Shark Einstein. Oh, t'as un savant qui reconstitue un requin à partir de bouts de requin.
Ah, pas mal. Il y a du zombie shark, avalanche shark, ghost shark. On a tout. Ouse shark, toxique shark.
Voilà, donc il y a la programmation complète et on peut déjà réserver les places enfin sur le site parisharkfest.com.
Pour les fans, hein, bien sûr. Alors, c'est plus les fans de nanar que les fans de requins.
Les deux. C'est ça, les univers se confrontent, c'est très bien.
Alors, je vous propose de faire quelques clins d'œil par rapport à des émissions précédentes. Et ça va être la 13e fois qu'on va parler de Lego dans cette émission.
C'est pas fini.
Pierre-Yves, il a un jingle pour les Lego maintenant. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en Lego, mais il y a aussi des très mauvaises idées. On avait parlé de Lego ID, où vous pouviez proposer des bonnes choses. Là, il y a quelques constructeurs qui se sont réunis autour d'un projet et apparemment, ça a eu lieu. C'est un pistolet en Lego. Alors attention, c'est un vrai...
C'est pas un pistolet en Lego.
Non, c'est un vrai pistolet.
C'est une vraie arme.
C'est un habillage d'armes.
Voilà.
Pour être plus précis.
Habillez votre pistolet, votre Desert Eagle, avec du Lego autour. Alors...
C'est vrai, quand vous voyez la photo, vous avez vraiment l'impression que c'est un jouet Lego, mais non, pas du tout.
Au début, j'ai cru que c'était un skin pour un jeu vidéo, quoi, mais même pas. Donc c'est, ils l'ont appelé Glock 19, donc c'est par rapport au Glock 19, qui est un modèle de revolver qui existe vraiment, qui est très connu. Et donc il y a Logo qui les a contactés pour dire « Vous êtes gentils les gens, mais on ne veut pas être associés à ça. » Ils leur ont demandé de retirer le produit, de ne plus le faire. Quoi.
Bah, surtout quand on voit le nombre d'agressions par arme, notamment aux États-Unis, auprès de jeunes enfants. C'est pour ça que Lego, c'est absolument retiré.
C'est surtout, ils ne veulent pas être associés à l'image, mais c'est qu'ils ne veulent surtout pas être associés au niveau, parce que quand tu vois le pistolet, tu as l'impression que c'est un jouet. Quoi. Ils n'ont pas envie qu'il y ait un gamin qui... Mettons que c'est un père de famille ou une mère de famille assez de chat parce qu'elle collectionne les armes, ou, etc., ou se le fait offrir, et il y a un gamin qui voit ça, même un tout petit, dit, il voit ça dans la maison parce que le flingue est mal caché, et bah, il va se prendre, il va peut-être jouer avec. Alors qu'une vraie arme, il va pas forcément avoir... Il va penser que c'est un jouet, pas une vraie arme. C'est très dangereux.
C'est ça, si tu vas jouer avec tes copains, eux ont leur petit pistolet en plastique, toi tu penses ramener, et tu ramènes ça, bon, effectivement. Il y a certains états aux États-Unis où les morts par arme à feu sont majoritairement des suicides, plus que lorsqu'on tire sur quelqu'un d'autre. Donc
y a une autre stat, c'est qu'aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu 30% de plus de morts par tir non intentionnel, par accident. Donc effectivement, du style le gamin ou n'importe qui soit en étant une arme, soit en l'utilisant sans le faire exprès, a tué quelqu'un. Quoi.
Ouais. Je pense qu'Obama avait fait une sorte de campagne pour justement récupérer les armes, ce qui avait été complètement détruit après l'arrivée de Trump, qui lui était plus un promoteur du genre et de la grande liberté.
Il y a la NRA qui est quand même très très puissante aux États-Unis avec des gros sponsors, et puis il y a aussi tout un marché pour la vente d'armes. Ça représente des millions, des milliards même de dollars chaque année. Ça représente aussi des emplois.
Ouais, de la viser que l'enfant va t'acheter un Lego pour habiller l'arme de son père, c'est un peu...
Ah oui, non, mais je dis pas que c'est bien, mais... Ouais. C'est, enfin, pour réussir effectivement à faire baisser les ventes d'armes, c'est très compliqué.
On en avait parlé quand on avait fait l'émission spéciale sur les emojis. Je ne sais plus quelle société... Enfin, toutes les sociétés qui utilisaient l'emoji, Apple, Amazon et compagnie, enfin, tous ceux qui créaient des emojis, avaient transformé soit l'icône de pistolet... donc du gun, revolver
en pistolet à eau
ou l'inverse. Et il y en a qui avaient fait le chemin vert parce qu'ils disaient justement, ils veulent pas que une arme, ça reste une arme, c'est un truc qui tue, qui peut tuer, qui peut blesser. Ils veulent pas que ça soit associé. Il faut pas que ça, l'image soit adoucie, quoi. Il faut pas que la notion d'arme soit adoucie en l'associant au pistolet à eau, au jouet. Faut que ça continue à faire peur, quoi.
Un débat qui avait complètement été laissé de côté, puisque la principale raison, enfin, ce qu'on avait trouvé d'autre comme débat, c'était comment le burger, où est-ce que la salade devait être par rapport au steak. Donc c'est vrai que le débat sur les armes était un peu passé à la trappe. Alors si on reste dans l'univers du Lego, il y a une petite application. Or qui débute ? Hein ? C'est la réalité virtuelle au service du Lego. Donc une application qui vous permet de scanner un peu vos boîtes de Lego.
Hein. Vos briques.
Elle les reconnaît, elle les trie et ensuite elle vous propose des constructions que vous allez pouvoir réaliser.
C'est pour les feignants, ça. Enfin, elle ne joue pas encore à ta place, pas encore.
Non, mais après elle te montre même comment faut faire.
Mais non, parce que...
Oh, c'est nul.
C'est un peu comme quand tu vas acheter certains meubles. Il y en a qui veulent justement faire ce procédé. Le Lego, c'est suivre une notice et puis bien l'appliquer et puis avoir un résultat.
Quand tu achètes une boîte toute neuve avec une voiture, un modèle de voiture ou de flingue, tu as le bon emploi. Puis la première fois, effectivement, tu le fais, tu suis bien les instructions, page par page, en suivant les numéros. Tu as toutes les pièces qui sont comme quand tu montes un meuble de la marque qu'on ne va pas citer. Quoi. Mais quand tu retrouves des Lego mélangés, un carton de Lego mélangé dans ton grenier, etc., tu dis ah, qu'est-ce que j'ai pour avoir avec ça. Justement, le plus important, c'est que tu fous ça dans les mains de ton gosse ou de tes gosses et tu leur dis allez-y, inventez un truc. Si le gamin commence à sortir son téléphone et à tout photographier en disant ah, je peux faire ça, ça et ça.
Bah, ça lui fait une source d'inspiration. C'est pas mal aussi.
Mais ça va te mettre le mode d'emploi à la place. Donc ça coupe leur imagination pratiquement. Bah,
le mode d'emploi pour un enfant, ça peut être une bonne chose de suivre comme ça une liste.
Ça va pas développer son imagination justement. Tu lui mets des pièces, il faut qu'il invente lui-même, il faut qu'il découvre, il faut qu'il expérimente, il faut qu'il... Ah, ça marche pas, il me manque ça, je reviens en arrière, je trouve autre chose. Il faut qu'il s'adapte. Si tu lui mets un truc qui lui fait tout de A à Z... Bah, il va rien apprendre, il va pas développer son imagination.
Ça
quoi.
Dépend de son âge.
C'est du par cœur, quoi.
Ça dépend de son âge.
Un enfant en bas âge, tu lui dis tu peux faire ça, ça l'occupe.
Ouais, mais tu joues avec, justement, tu lui laisses pas. C'est pas le téléphone qui doit faire l'éducation, qui doit apprendre à ton gamin à jouer. C'est toi.
Alors, tu fais une fois avec la notice et après, tu le refais avec ton imagination, limite. Je pense qu'il y a du bon dans ces deux méthodes pour l'apprentissage.
Ouais, ça peut faire une base. Et puis après. Ça peut avoir l'imagination, je pense que ça ferait penser à des choses auxquelles tu ne penses pas du tout. Et enfin, comme je dis, ça ferait aussi une base.
On a des belles générations de feignants qui s'avancent devant nous, je le dis.
Alors après, comme le disait François, ça démarre. C'est-à-dire que par exemple, si tu scannes 200 pièces, aujourd'hui, le logiciel ne va te proposer que des modèles avec 30 ou 40 pièces. Hein. Il ne va pas te proposer des modèles avec les 200 pièces. Mais bon, petit à petit, ça va.
C'est surtout que, si on regarde un peu les notes de l'application, on peut le citer d'ailleurs, le nom de cette application, c'est Brickit, B-R-I-C-K-I-T. Les gens se plaignent que, c'est long à scanner, qu'ils n'ont pas forcément des résultats pertinents par rapport à leur set de Lego.
Ça simplifie, parce qu'il y a déjà des sites pour les passionnés de Lego, je ne sais plus comment s'appelle le site, où tu peux recenser tous les Lego que tu as, les boîtes, etc. C'est surtout pour les collectionneurs, ça te permet déjà de suivre ta collection, mais tu peux aussi, sur ce site... préparer tes modèles, voir si tu as suffisamment de pièces pour faire tes choses. Mais là, ça s'adresse déjà au plus grand.
Enfin, il faut quand même préciser que cette application, elle est développée par des amateurs. Ce n'est pas Lego qui l'a sortie, c'est bien des amateurs qui se sont penchés dessus et c'est quand même un super boulot.
Et ça ne va pas tarder, une fois que ça fonctionne, à se faire racheter. Hein. Je pense qu'on... On n'en doute pas. Tant que ce n'est pas Asmodée qui rachète l'application, tout va bien.
Après, si tu sors
Il existe des jeux de plateau Lego, sortis par Lego. Oui. Ouais.
Après, tu sors un gros carton de Lego que tu veux donner à tes enfants et pouvoir leur donner l'application à tester. Déjà que tu vides ton carton de Lego et que tu commences à scanner pièce par pièce le nombre que tu as,
ça etc.
Faut déjà que tu fasses un tri après que tu les scannes, tu le donnes le nombre. Ton gamin, il a fini de monter sa ville, faire jouer et ranger les Lego que toi, tu es en train de finir de scanner. Faut être clair là-dessus.
Allez, je vous propose d'écouter un peu de musique. Je vous propose d'écouter, dans ce thème, le vélo, parce qu'on parle du Tour de France, d'écouter The Rosebuds avec titre. Alors, c'est marrant, j'ai perdu ma musique.
Toi aussi.
Allez, Pierre-Yves.
Moi, je vais retourner sur un chanteur français qui nous a quittés il y a quelques temps. Parce que c'est Alain Bachung, et le titre de la chanson qui s'appelle « L'arrivée du tour », au moins c'est clair, on sait de quoi on parle.
Chanson 86, oui. «
genoux les majorettes. C'est demoiselle au parloir. Sonnez, résonnez, musette. Arnaud de la victoire. Loin les cul-de-jatte, ça court les rues. À la poursuite du monde zombie. Non, y'a pas le feu au QG. Non, y'a pas le feu au QG. Le feu au QG. Ce n'est qu'un arrosoir. Un tomahawk sur l'armoire. Séchoir, astiqué baïonnette, vous qui passez sans m'avoir. Suis trop pompé pour le César. Smoking fumé va de non recevoir. Et tu me la gardes mobile, et tu me la gardes mobile, 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 la garde mobile. Ce n'est qu'un arbre. Un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tapines en bout. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. We'll be right back.
Vous êtes dans l'émission Heureusement en France sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou peut-être sur notre site campuslille.com. N'hésitez pas à réécouter les podcasts de notre émission et même des autres émissions. Dans la rubrique Les émissions, vous cliquez sur la tranche horaire qui vous plaît et vous allez pouvoir accéder aux différents épisodes passés. C'est magnifique, la technologie d'aujourd'hui. Alors, je vous propose de partir dans l'espace, puisqu'on en parle assez régulièrement, cette conquête spatiale qui a repris un peu comme ça à toute vitesse ces derniers mois, même ces dernières années. On peut dire que SpaceX avait donné un peu un grand coup dans la fourmilière, et ils n'étaient pas les seuls. Hein, lorsqu'ils ont démarré, il y avait Blue Origin,
de Jeff Bezos,
et également Virgin,
de Richard Branson, enfin Virgin Galactic.
Alors Virgin Galactic a inauguré son premier vol spatial, et alors c'était
pour moi c'était pas le premier, mais c'est par contre là c'est Richard Branson qui a dit hop je monte dedans à plusieurs avec des amis qu'il avait invités. Bon, je sais pas, faudrait vérifier.
Alors en tout cas Dominique s'est retourné, ça ne me concerne pas. Alors c'est marrant puisqu'un épisode des Simpsons il y a quasiment 7 ans montrait justement Richard Branson dans l'espace. Et lorsqu'on regarde un peu le dessin, l'avion est quasiment identique à celui d'aujourd'hui.
Mais ça fait 25 ans qu'il prépare son projet pour aller dans l'espace.
C'est ça. Mais il a eu un peu de mal à démarrer, surtout que toute la pub... Faut dire que SpaceX, dès qu'il fait un lancement d'un petit satellite ou autre, le communique à grande échelle. Alors... Il y a eu un grand débat suite à ce vol, puisque faut savoir que Richard Branson est parti un peu à la va-vite pour doubler un autre milliardaire qui est Jeff Bezos, qui avait promis d'y aller prochainement.
C'est pas 19 juillet, demain ?
Ah, peut-être, je vais vérifier. Le 20 juillet.
Le 20, non, c'est mardi, effectivement. Richard Branson y allait la semaine dernière, dimanche dernier, le 11. Il voulait couper la chic.
Ça rappelle un peu la conquête spatiale à l'époque pour aller sur la Lune. Les Américains sont un peu partis à la va-vite. Alors bien sûr, vous allez me dire si ils sont bien arrivés. Ah. Hein, attention, je vous vois arriver. Mais voilà, tout a été fait un peu rapidement justement, puisque les Russes étaient vraiment aux portes de partir. Ouais, hein. Eux avaient inauguré le premier vol spatial.
Ils avaient fait le premier satellite, le premier homme dans l'espace, la première femme dans l'espace.
Du coup, Jeff Bezos l'a un peu au travers de la gorge, faut le dire, et a critiqué le vol de Richard Branson en disant qu'il n'avait pas vraiment été dans l'espace.
Ouais, c'est toute une histoire sur à partir de quelle altitude finit l'atmosphère, on va dire, et commence vraiment l'espace, en sachant que, bon, en fonction des pays, des réglementations et des associations, parfois ça commence à 80 km, parfois ça commence à 100 km, et même pour certains, admettons, même l'ISS, admettons, est-ce qu'elle est vraiment dans l'espace, donc ça pourrait être, admettons, à 300 et quelques kilomètres.
Alors, c'est ce qu'on appelle la ligne de Kármán, qui est une référence qui est située à 100 km au-dessus de nos têtes et qui est pour certains astronautes vraiment la définition entre l'atmosphère et l'espace. Sauf que Virgin Galactic, eux sont passés à 90 km. Donc ils étaient bien en apesanteur autour de la Terre lors du voyage, mais ça a permis à Amazon, à notre grand Jeff Bezos, de dire bah non. Il n'a pas vraiment été dans l'espace puisqu'il était en dessous de cette ligne. Alors à savoir que la NASA a reconnu le vol comme valide.
Oui, parce que pour la NASA, pour elle, c'est à partir de 80 km. Après, enfin bon, au-delà de la petite histoire de savoir est-ce que c'est 80, 90 ou 100, il y a aussi l'aspect... Après, pardon, il y a tout l'aspect réglementaire. Parce que quand vous survolez un pays voisin, si vous survolez donc à une certaine altitude... Le pays voisin peut considérer en fait que vous êtes introduit illégalement dans son territoire. Là que vous êtes dans l'espace, aujourd'hui l'espace appartient à tout le monde, donc il n'y a pas cette notion de pénétrer dans un pays voisin.
Alors,
sinon ils n'avaient qu'à demander au troisième de la bande, Elon Musk avec ses satellites, de prendre des photos pour confirmer les photos de la ligne d'arrivée.
Alors, on peut parler d'Elon Musk dans cette affaire, puisque Elon Musk, il voit ses copains partir, ses autres milliardaires, et s'est dit, moi, je vais partir également. Sauf qu'il ne part pas avec SpaceX. Il part avec Virgin Galactic.
Ah, j'ai cru te dire qu'il allait avec Sputnik.
Non. Alors, du coup, on se demande, pourquoi ?
Juste pour emmener des Bezos.
Alors, demain, effectivement, la première, c'est... Alors, lui avait fait quelques tweets en disant à Bezos, c'est cool, calme-toi, on n'est pas à 10 km près, maintenant, on parle de la ligne un peu comme un troll. Mais lui est déjà plus ou moins un copain de Branson. Et surtout, c'est que SpaceX, lui, se désintéresse un peu du tourisme spatial, puisque les objectifs, maintenant, c'est vraiment d'installer des bases lunaires, la conquête de Mars... Donc, lui délègue un peu ce marché à Virgin, qui, de toute façon, Virgin, avec ses avions, on n'est pas sur un départ déjà.
C'est moins risqué.
À l'horizon.
Vertical.
Voilà, vertical. Donc, c'est... lui a fait vraiment des roquettes qui sont assez coûteuses. Et du coup, il peut déléguer cette partie de... Alors, c'est quoi? C'est 3-5 minutes que vous allez passer dans l'espace?
Un peu plus, je pense, mais...
Ouais, puis surtout, tu reviens, tu as les petites les wings, là, les petites ailes, comme quoi tu es allé dans l'espace et que tu es un astronaute. Donc,
C'est sûr que tu n'as rien fait, tu es juste un spectateur, tu n'as pas fait d'expérience, tu n'as pas fait de manipulation, oui. Quoi que ce soit. Enfin, heureusement pour toi, mais bon. Après, est-ce que le marché est vraiment du tourisme?
Quand tu es millionnaire, je pense que ça peut être sympa de dire, je sais pas quoi faire.
Oui, c'est ça, mais est-ce qu'il y a tant de gens qui sont... capable de se le payer, oui, mais qui vont être intéressés. Mais lui, parce que Branson, je crois qu'il prévoit de faire entre 300 et 400 voyages par an. Donc c'est pratiquement une navette tous les jours, quoi, comme si tu allais prendre ton TGV pour aller ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, il y aura peut-être d'avoir des files d'attente les premières années, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Enfin,
d'ici là, on aura une expérience similaire avec les aéros-G, les avions qui descendaient en pic. Ce que conduit Thomas Pesquet lorsqu'il n'est pas dans l'espace actuellement. Alors, dans ce vol spatial qui aura lieu mardi, alors qui sera au-dessus des 100, je vous rassure tout de suite, il y aura plusieurs participants et on parle d'un homme qui a dépensé 28 millions pour être dans ce premier vol. Alors, il s'est désisté puisqu'il a un emploi du temps trop chargé.
Pour dépenser 28 millions d'eueuros, oui, le gars, il n'est pas les mains dans les poches la plupart du temps. Ouais.
Alors, est-ce qu'il s'est désisté, effectivement, parce que son emploi du temps est trop chargé, ou parce qu'il n'est pas forcément le premier touriste à être allé dans l'espace, du coup, si on considère que Branson a un peu marqué le pas avant? C'est une question.
Ouais, il faudrait lui poser la question.
Alors, en tout cas, Jeff Bezos va s'accompagner d'un autre jeune voyageur qui n'a que 18 ans. C'est Olivier Damon, qui partira donc prochainement avec, comme... autre participant, on l'avait cité dans une émission précédente, une vétérane, on peut dire, de Mercury 13, qui a 82 ans. C'est Wally Funk, je pense.
Il sera la personne la plus âgée à aller dans l'espace.
Voilà.
Et retourner, en fait.
Et avec le plus jeune. Donc 18 ans. Voilà, Jeff Bezos veut vraiment marquer le coup un peu.
Non, on ne sait pas. Il y a peut-être une astronaute qui est tombée enceinte dans l'espace. Donc, ça veut dire que le bébé qu'elle a porté en elle, c'est lui le plus jeune. On ne sait pas. C'est secret. Ça. On sait qu'au niveau de la NASA, il y aurait eu des expériences dans l'espace, mais ils n'ont jamais communiqué dessus.
D'accord. Bon. Tu as des... Mais il faut les mettre, ces dossiers.
Non. Je ne suis pas fou, moi. Je ne veux pas que la NASA me retrouve.
On va suivre cela de très près. Alors, d'autres petites actualités à la va-vite. Est-ce que quelqu'un voulait parler de quelque chose avant que j'entame, par exemple, sur Takeshi Kitano?
Tu peux, vas-y.
Qui va apparemment terminer un peu sa carrière d'acteur, en tout cas, ou de réalisateur même, puisqu'il va... Alors, attention, on connaît...
C'est un humoriste.
Voilà, il nous annonce qu'il termine sa carrière, c'est son ultime long métrage, et il va faire un film de samouraï avec Ken Watanabe. Donc le dernier, enfin je pense peut-être dire une bêtise, mais on avait déjà eu des films de samouraï avec Takeshi Kitano, avec le samouraï aveugle, rappelez-moi le nom.
Zatoichi,
effectivement. Alors je ne sais pas s'il y en a eu entre-temps.
Je pense pas.
Il n'en a pas fait tant que ça. On l'est surtout pour faire ses films sur la pègre, la mafia. Mais...
Voilà. Et pour ceux qui connaissent très peu le personnage de Takeshi Kitano, c'est vrai qu'on a deux visages. On a le visage qu'on peut voir dans les films, qui sont souvent des films un peu dramatiques, voire violents. Et on a l'autre visage que connaissent plus les Japonais, celui d'un peu de la télé slash télé-réalité des fois, où il est prêt des fois un peu à faire tout et n'importe quoi.
Là, déjà, c'est la gaffe, quoi. C'est vraiment Vincent Lagaffe à la télé japonaise, quoi. Enfin, mais en pire.
Mais il était même connu pour ça au départ. C'était un humoriste avant d'être un réalisateur. Et d'ailleurs, il a un autre nom.
Du coup, c'est Takeshi. Sans nom de scène, on va dire.
En tout cas, ça fait plaisir de le revoir dans des films. Alors, le pari sera fait. Est-ce que ça sera vraiment son dernier épisode, son dernier film, sachant qu'il réalise ici.
Ouais, ça faisait quelque temps qu'il n'avait pas fait de film. Il avait d'ailleurs, je pense, quitté la société qu'il avait créée il y a quelques années. Comme quoi, il voulait vraiment prendre du recul. Peut-être un petit coup de blues.
Allez, on va se terminer avec une petite news de jeux vidéo. Avec des enchères. Ah, tu avais autre chose.
Mario, oui, comme on est au Japon, on aurait pu faire un petit tour en Corée du Sud, c'est juste à côté.
Ah, oh, vas-y.
Oui, la news de.
Ouf, en Corée du Sud, juste à côté. Bon.
Si.
Pas trop loin.
Non, c'est plus près d'ici. On connaît tous Gangnam Style. Si, la vidéo qui avait dépassé, la première a dépassé le milliard de vues sur YouTube, je crois.
Oui.
Et bien maintenant, donc, il est originaire de Corée du Sud, et bien maintenant, son morceau est interdit en Corée, mais dans les salles de sport, à cause du Covid. Ils ont limité la vitesse, la fréquence des morceaux de musique qui sont autorisés dans les salles de sport. Et Gangnam Style, qui est à 132
BPM,
est interdite maintenant. Parce que sinon, les gens vont respirer trop vite, vont faire trop d'efforts, ils vont disperser le virus plus facilement. Et même sur les rouleaux où tu cours, les tapis de course, ils hybrident à 6 km/h. C'est pour montrer l'absurdité.
6 km/h, tu cours pas à 6 km/h.
Tu marches vite. Ça dépend de là-bas. Ils sont pas grands, les Coréens. Donc
tu... aïe, aïe, aïe.
Et voilà, ça dérape.
Voilà, ça dérape.
En fait, c'est pas la NASA qui va te chercher les dômes.
je crois que tu vas aller faire un petit séjour avec Griezmann. Ouais.
Parce que peut-être que si tu avais effectivement un contrat prévu avec Konami, je pense que pouf, ça va te passer à la trappe aussi.
Alors, Griezmann avait d'ailleurs perdu son contrat avec Konami parce qu'il avait fait quelques commentaires sur des Japonais dans un hôtel, je pense. Il s'était un peu moqué. Et maintenant, comme tout se retrouve sur les réseaux sociaux, surtout quand vous êtes connu, il y a forcément quelqu'un qui vous guette avec son smartphone.
Mais là, c'était un autre joueur de l'équipe de France qui l'avait filmé et qui l'avait mis ça sur son compte Twitter.
Pour une fois que ce n'est pas une sextape, écoutez, hein.
Il a quand même dû perdre quelques millions d'euros dans cette histoire.
Bon, il trouvera bien un autre sponsor. Tant que c'est pas un sponsor japonais ou asiatique, je pense. Allez, on va se quitter avec la musique. Non.
Oh, on n'a pas le droit.
Il n'y a pas lien avec le vélo, ça marche pas.
Si on la passe au ralenti, on a le droit.
Il roule trop vite, le vélo.
Tu pourras l'écouter sur le retour, si tu veux, en faisant même un peu de vélo. Je vais vous passer la chanson pour le back-to-back sur le vélo. C'est Death of an Old Bike. Donc c'est du groupe The Rosebuds, qui nous vient des États-Unis de Caroline du Nord, et qui, sur cet album qui s'appelle Sand Plus Silence, nous fait ce magnifique morceau qui fait bien sûr référence au vélo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. And the cold
I'm worth.